Bonjour à toutes et à tous. Le cycle de conférences Quartier populaire entre fiction et réalité continue à Marseille. Après une définition socio-historique des quartiers populaires par Thibaut Tellier que la Grenouille avait rencontré, le rapport entre médias et quartiers populaires, puis les quartiers au cinéma, le vendredi 14 avril, l'association Approche Culture Territoire avait invité Serena Cello et Nadia Doucard pour évoquer l'écriture. La littérature qui représente les quartiers populaires et les écrivaines et écrivains qui sont issus de ces espaces urbains. Pour revenir sur ce sujet avec nous, Serena Cello est dans le studio de Radio Grenouille. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'être ici avec nous.
Merci à vous pour cette invitation.
Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « La littérature de banlieue, quel engagement littéraire contemporain ?» en co-tutelle entre l'Université de Gênes en Italie et l'Université de Tours. Vous avez publié de nombreux articles à ce sujet qui se trouvent un peu à mi-chemin entre la littérature et la sociologie. Et pour commencer, peut-être une première question, qu'est-ce que vous entendez par littérature de banlieue ?
Oui, d'accord. C'est une thématique qui fait débat en France, qui fait débat dans le monde, en général, en Italie et dans le monde anglo-saxon. On parle de littérature de banlieue, des banlieues, littérature des cités et littérature urbaine. Et il y a aussi un lien avec l'ancienne littérature beurre. Pour revenir sur l'étiquette, pour moi, la littérature des banlieues, au pluriel, j'envisage ce syntagme dans une acception qui se détache de toute connotation et qui veut être, disons, neutre. Et disons que les auteurs, le terme de banlieue renvoie doublement l'origine géographique des auteurs et le contexte dans lequel se déroule l'action romanesque. Voilà. Ça, c'est pour moi, disons, l'étiquette littérature de banlieue qui ne veut pas, je le répète, qui veut être neutre, voilà.
Alors, quelle est l'histoire un peu contemporaine, justement, de cette littérature ? Vous venez de l'évoquer, la littérature beurre, donc plutôt dans les années 80. Quelle a été l'évolution ? Peut-être que ce que c'est, finalement, cette littérature beurre ? Donc, le nom peut-être un peu polémique, mais...
Oui, beurre, c'est une littérature qui naît vers les années 80, d'auteurs d'origine maghrébine qui écrivent en France et qui décrivent, disons, leur tiraillement entre deux cultures, la culture française et la culture arabe, et toutes les problématiques d'une personne qui vient vivre dans un autre pays et qui a deux origines et qui ne trouve pas, disons, vraiment la sienne. Et c'est une littérature qui continue tout au long des années 80 et aussi 90, mais qui après change, parce qu'on parle maintenant de littérature de banlieue. Ce sont des auteurs qui sont nés en France, ce sont des Français qui n'ont plus le problème de la problématique identitaire. Et on commence déjà à parler de la littérature des banlieues avec le roman de Rachid Djaidani, qui a fait époque, disons, Bunker, publié en 1999. Et après, moi, je me suis dédiée à tous les romans publiés en 2006, après les émeutes, qu'il y a eu, disons, un deuxième retour à cette littérature. Voilà. D'où vraiment la nécessité de bien distinguer la littérature beurre et la littérature des banlieues.
Alors justement, étudier cette littérature, vous me disiez, c'est entre la sociologie du coup et la littérature, et ça vient des cultural studies, donc qui est plutôt un champ d'études anglo-saxon, et finalement cette littérature est assez peu étudiée en France.
Oui, très peu en France. Moi, j'ai eu quelques soucis, disons, en faisant une thèse en co-tutelle, parce que en Italie, c'est une thématique qui ne pose pas beaucoup de problèmes, mais j'ai vu qu'en France, c'est une thématique un peu délicate. Et le monde anglo-saxon, je parle de l'Angleterre et je parle des États-Unis, où des docteurs de recherche, de professeurs, le monde académique avait déjà étudié ces thématiques-là, depuis les années 2000. Donc ce sont des recherches qui sont nées dans le monde anglo-saxon, qui fait partie de toute une plus large thématique qui s'appelle « Cultural Studies ».
Qu'on pourrait définir peut-être pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est l'union en fait entre littérature, sociologie, l'union des deux mondes académiques. Donc faire des recherches qui sont entre sociologie et littérature, voilà, linguistique aussi.
Alors vous, pour justement étudier ces textes, vous appuyez sur la sociologie des écrivains. aussi et des endroits où d'où ils viennent,
exactement, oui, parce que avant de m'intéresser au texte d'un roman, parce que c'est une thèse en littérature bien sûr, mais j'ai fait vraiment beaucoup de recherches parce que je suis italienne, donc pour moi tout ce qui était quartier sensible, grands ensembles, j'ai vraiment étudié beaucoup la naissance depuis les années 50 jusqu'à présent, d'un point de vue architectural aussi, juste pour savoir, et toute la partie sociologique. Et donc je me suis appuyée sur vraiment des auteurs contemporains qui étudient les quartiers sensibles. Je pense à Manuel Boucher, d'autres Gérard Méger, d'autres auteurs qui ont fait des études sur là. Et puis après, je me suis intéressée à la partie, disons, la partie littéraire. Et ce sont des romans qui s'appuient beaucoup sur la sociologie. Parce que, comme je disais avant, ce sont des auteurs qui sont nés dans les quartiers sensibles ou qui ont vécu une partie de leur vie et qui abordent les thématiques liées à ces quartiers-là.
Alors, entre tous les textes que vous avez étudiés, notamment pour votre thèse et après pour vos articles, quels sont les points communs, justement, entre ces romans, peut-être au niveau des sujets traités, déjà ?
D'accord, oui. En fait, les sujets sont vraiment variés. Moi, j'ai étudié 12 romans publiés en 2006, mais les thématiques sont variées. En commun, il y a toujours la délinquance, le problème de la drogue, du viol, l'abandon scolaire, les problématiques liées à une famille souvent monoparentale. Donc, des problèmes vraiment d'émergence, de sécurité, disons, les bagarres contre la police. Mais il y a aussi vraiment d'autres types de thèmes, le succès personnel. Au contraire, il y a des épisodes de succès scolaire ou des exemples positifs. Voilà.
Alors le but serait plutôt de déconstruire un peu les clichés, enfin de se les réapproprier, donc c'est-à-dire d'en parler, pas d'éviter ces sujets-là qui font un peu la une du 20h pour reprendre le cliché justement, mais tout en essayant de les se les réapproprier en fait.
Exactement. Dans les conférences qu'il y a eu avant d'Association Culture et Territoire, il y avait Jérôme Berthaud qui parle des médias et comment les médias parlent des quartiers populaires. Et de mon côté, les auteurs, ils essayent d'aller au-delà des clichés pour essayer de les expliquer. Parce que souvent, disons que le public regarde les épisodes, mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Et les auteurs ici nous viennent au secours en disant voilà pourquoi il y a ces épisodes-là, et ils parlent de thématiques de la vie quotidienne dans ces romans. Ce sont vraiment pour la plupart, ce sont des jeunes adolescents qui abordent leurs thématiques des vies avec les amis, les copains, voilà, les embrouilles.
Vous avez d'ailleurs amené des extraits, des ouvrages, des romans. Peut-être qu'on pourrait lire un extrait.
Oui.
Vous aviez sélectionné. Donc c'est de Feyzaghen, du rêve pour les oufs.
Oui, ce texte de Feyzaghen a eu vraiment beaucoup de succès. Il a été traduit en 24 langues, publié en 2006. Et je lis un petit extrait où la protagoniste, qui s'appelle Alem, va chercher son frère. Et elle décrit aussi un peu le quartier où elle vit. Foued n'aime pas tellement que j'aille le chercher quand il est dehors avec ses copains. Il dit que je lui mets la honte parce que monsieur est grand, vous comprenez. En général, j'évite, c'est vrai. Mais là, je l'ai averti et je constate qu'il se fiche pas mal de respecter les règles que je fixe à la maison. Après tout, c'est un gamin. Il n'a que 15 ans. Il se lève tôt pour aller à l'école demain matin. Il n'a rien à faire dehors à cette heure-ci. Il est sûrement à l'autre bout de la cité, au stade Pierre de Coubertin. En passant, j'ai remarqué que la plupart des terrains de sport portent le nom de Pierre de Coubertin. Quel manque d'originalité. Moi, je propose qu'un jour, on rebaptise notre stade l'Adji Doucouré. Bref, ce stade se trouve au pied de ce qu'on appelle ici la colline. Une sorte de grande butte qui surplombe sur tout le quartier. Je me poste à cet endroit stratégique et là, une vue extraordinaire m'est offerte. Des lumières me parviennent de tous les côtés et je trouve ça beau. Je suis entourée par tous ces immeubles aux aspects loufoques, qui renferme nos bruits et nos odeurs, notre vie d'ici. Je me tiens là, seul, au milieu de leur architecture excentrique, de leur criade, de leur forme inconsciente qui ont si longtemps versé nos illusions. Il est révolu le temps de l'eau courante et l'électricité suffisait à camoufler les injustices. Ils sont loin maintenant, les bidonvilles.
Merci beaucoup, c'était un extrait de Faith Again. Dans un de vos articles que vous avez publié, vous citez le sociologue Pierre Bourdieu qui dit que les analyses plus littéraires peuvent être capitales pour comprendre, c'est-à-dire expliquer complètement ce que les statistiques ne font que constater. Qu'est-ce que pour vous apporte la littérature en plus peut-être de la sociologie?
À mon avis, la littérature arrive avant. Arrive avant la sociologie arrive très bien, mais après, la littérature, en quelque sorte, elle anticipe ce que sera peut-être la société demain. Et aussi avec Bunker, le roman de Rachid Jaidani en 1999, il avait déjà un peu anticipé le climat qui puis apporter aux émeutes très connues dans l'Europe entière en 2005. Et il nous invitait déjà en 1999 à visiter la banlieue. Dans son roman, il dit « Venez visiter la banlieue ». Cela parce que l'auteur, il voulait faire comprendre aux citoyens simplement la vie, ce qui se passe, quelles sont les dynamiques de ces contextes-là. Et au-delà de les stigmatiser avec les journaux du 20h, la Une, comme ça, essayer vraiment de comprendre, de venir. C'est une invitation. Dans tous les romans, il y a cette invitation au lecteur. Venir pour comprendre quelles sont les dynamiques, comment la population vit ici.
Alors, à vous écouter, on comprend que c'est souvent des manifestes aussi pour défendre des quartiers et comprendre des réalités. Quelle est la part de fiction, en fait, aussi fiction littéraire, parce que c'est pas forcément que des autobiographies, même pas du tout, ça peut être complètement imaginaire.
Exactement, oui. Ce ne sont pas des autobiographies, non. Ce sont des romans, mais inspirés toujours dans la réalité. Dans toutes les interviews que j'ai pu lire et analyser, Les romanciers abordent cette thématique entre fiction et réalité, mais c'est toujours de la fiction. Ce sont toujours des histoires de l'esprit de l'auteur, mais qui s'appuient sur le contexte, sur le vécu de la personne, de l'écrivain. Voilà.
Alors, certains des auteurs que vous avez étudiés ont publié un livre en 2017, vous me disiez, oui. Qui s'appelle... Peut-être qu'on peut redire le nom.
Oui, le collectif a été créé en 2007. Ça s'appelle le collectif Qui fait la France, avec le point interrogatif.
Et le double jeu de mots, voilà. Qui fait du verbe faire et qui fait la vibe.
Exactement. Et ils ont publié un livre aux éditions Stock qui s'appelle Chronique d'une société annoncée. Donc cela revient le mot annoncé. C'était une société qui était déjà annoncée. Voilà, et ils abordent toutes les problématiques liées aussi aux émeutes de 2005. Ils ont fait un manifeste qui, on peut le trouver dans les premières lignes.
Et qui définit, je pense, ce que c'est pour eux la littérature de banlieue.
Exactement, la littérature de banlieue, mais aussi le vivre ensemble. Ils parlent beaucoup de vivre ensemble, de diversité. Et par exemple, je peux
Allez-y.
Lire un extrait du manifeste. Il dit « Parce que la littérature à laquelle nous croyons, comme contribution essentielle à la guerre du sens, elle est aux antipodes de la littérature actuelle, égotiste et mesquine, exutorie des humeurs bourgeois. » Et parce que nous sommes convaincus que l'écriture aujourd'hui, plus que jamais, ne peut plus rester confinée, molle, doucereuse, mais doit au contraire devenir engagée, combattante et féroce. Parce que nous refusons de demeurer spectateurs des souffrances dont nous sommes victimes, les plus fragiles, les déclassés, les invisibles.
Alors, dans ce que vous venez de lire, il y a trois mots, engagé, combattante et féroce, pour définir la littérature. Est-ce que c'est un retour, finalement, d'une forme de littérature engagée avec, justement, ces auteurs-là qui viennent des quartiers populaires?
Oui, disons que ma thèse, je me suis focalisée exactement sur l'engagement. Et finalement, ce que je peux dire, c'est que c'est une littérature qui n'est pas engagée dans le sens sartrien du terme. Mais au contraire, contrairement à une idée de désengagement après la période formaliste, Il y a depuis quelques années dans la littérature française, mais européenne en général, un retour à l'implication. J'utilise ainsi un terme de Bruno Blankmann, qui parle de l'implication littéraire à présente. Et dans ma thèse, je cite aussi le critique littéraire Dominique Viard. Lui, il parle de fiction critique. Donc, ce sont des fictions, comme j'ai dit avant, mais qui deviennent critiques parce que l'écrivain, l'auteur, il s'implique. Il regarde, il est lui-même, il est l'autre. Il est un homme de la foule, comme disait Giorgio Agamben. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de voir ce qui se passe autour de lui. Il doit le raconter. Donc, pourquoi pas la littérature? Et donc, il le fait à travers l'écriture romanesque. Il s'engage dans le sens qu'il participe, il voit et il dénonce, en quelque sorte. Donc, l'engagement au présent, c'est ça. C'est une implication de l'écrivain. C'est un engagement qui n'est pas politique, mais qui prend parti dans la société dans laquelle l'auteur il vit. Voilà.
Pour vous, cette forme d'engagement, aujourd'hui, par exemple, dans la littérature française, vient de ces auteurs-là?
Oui, exactement. Il y a bien sûr d'autres auteurs, mais la littérature de banlieue pourrait, à mon avis, bien sûr, entrer dans cette, donc être caractérisée comme littérature impliquée, littérature engagée.
On parle de littérature depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait revenir sur la dimension de la langue, justement, oui, qui est utilisée. Donc, il y a plusieurs dimensions, et vous me parlez notamment d'une certaine forme d'écriture qui utiliserait justement un mélange de mots d'argot, de verlan, etc. Peut-être que vous pouvez compléter.
Oui. Donc, pour moi, c'était un peu difficile parce que ce qu'on appelle le français contemporain des cités. Je cite ici le mot de Goudaillet, que depuis les années 90, on étudie voilà, le français contemporain des cités. Et pas dans tous les romans, mais dans beaucoup de romans, surtout dans les dialogues entre les personnages qui sont des jeunes adolescents, ils parlent comme ils parlaient dans la rue, voilà, entre amis. Et ils utilisent voilà, le français contemporain des cités qui, par les linguistes, est un mélange d'argot, de verlan, d'emprunt à l'arabe, au berbère, au tzigane, mais aussi à l'anglais, à l'italien. Et voilà, je peux lire un
Allez-y,
exemple.
Allez-y, un extrait. Donc c'est de quel auteur?
L'auteur est... alors, le roman s'appelle Sarcel Dakar. Le protagoniste est d'Israël, qui, s'adressant à son copain Yuba, utilise dans le français contemporain des cités. Je vous donne un exemple. Donc. Alors, c'est qui le pigeon? Je lui ai demandé. Un mec que j'ai croisé dans une soirée. Il veut pécho de save, de shit. Normalement, il doit se pointer avec 500 queues. Putain, on est à la bourre. L'enfoiré va se barrer. Mais non, t'inquiète. Bien sûr que je m'inquiète. Fais-moi confiance. C'est un vrai crévard, ce mec. Bon, t'es maladiaise. Tu le chopes à l'arrêt de la petite ceinture et tu fais style de l'amener voir le dealer. Moi, je vous intercepte dans la troisième rue à droite. Je te mets une patate. Quoi? Tu me mets une patate? T'es ouf? De ou quoi?
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Donc ça, c'est un exemple. Vous me disiez aussi que ce n'était pas que ce langage-là qui était utilisé dans les romans. Bien au contraire, ce n'est pas forcément que ce type de langage qui est utilisé serait... peut-être un peu trop réducteur de...
Exactement, oui. Ce sont des exemples qui font partie des dialogues. Mais en général, le texte est écrit dans un français standard. Voilà, donc qui est de facile à comprendre, même pour un non-francophone.
Est-ce que peut-être pour les auditeurs pardon, qui seraient intéressés par cette littérature, vous pourriez peut-être nous citer... deux, trois romans, peut-être pour commencer, pour les novices.
Oui, bien sûr. Donc, je peux citer Karim Amelal, qui a publié « Cité à comparaître ». Je peux citer donc Faye Zaghen avec « Du rêve pour les oufs », Mabrouk Rachidi avec « Le poids d'une âme », Didier Mandin avec « Banlieue Voltaire », Mohamed Razan avec « Dix violents » et Tom Teriam avec « Banlieue noire ».
Ça fait beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses à lire. Vous avez pu rencontrer, vous, ces écrivains ?
Oui, oui, oui. J'ai fait pas mal. J'ai fait aussi ma thèse donc, en France, donc j'ai eu la chance de les contacter et de les interviewer. Et dernièrement, je vous conseille aussi de lire Rachid Santaki. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Rachid Santaki, lui, il écrit des polars. Lui, il vit à Saint-Denis. Saint-Ouen, Saint-Denis, il a vécu. Et il écrit des polars très intéressants. Avec, là, il y a vraiment, on utilise du français contemporain qui est extraordinaire. Mmh. Et lui, il est, avant, il était éditeur. Il a créé une revue de hip-hop, Five Styles. Et il s'intéresse beaucoup au monde de l'hip-hop, du rap. Et dans les textes, il y a vraiment un mélange de littérature, mais aussi de cinéma, le cinéma des années 80 et de hip-hop.
Ça donne envie.
Oui, Rachid Santaki.
Ok, c'est noté. Est-ce que peut-être les auteurs que vous avez rencontrés ont conscience d'appartenir peut-être à un genre littéraire ? Est-ce que c'est quelque chose de revendiqué finalement ?
Certains le revendiquent. Comme Rachid Djaidani, que lui revendique pour tout l'étiquette littérature urbaine. Mais les autres, non. Les autres, ceux qui font partie du collectif qui fait la France, ils disent appartenir à un groupe, mais au contraire, quelquefois dans les interviews, ils essayent de se détacher de l'étiquette de littérature des banlieues. Ça dépend des écrivains. Il y en a certains qui acceptent ou qui acceptent d'autres formes et d'autres qui, au contraire, veulent parler de littérature tout court. Voilà.
Pour ne pas être catégorisé comme un sous-genre littérature de banlieue, même si ce n'en est pas un, comme vous l'expliquiez au début. Mais...
Exactement. Parce que si on parle de littérature de banlieue, souvent on dit que c'est une littérature mineure, voilà, par rapport à la littérature majeure. Et donc, ils ne veulent pas appartenir à cette catégorie. Il y a eu beaucoup de débats en France sur ça. Feyzaghen avait participé déjà à des interviews comme ça sur cette thématique.
Et ça se ressent aussi dans le milieu universitaire, comme vous le disiez, parce que finalement, c'est un genre qui est assez peu étudié par les universitaires français.
Exactement, oui. C'est un genre qui est peu étudié, celui de la littérature, je veux dire. En France, j'ai eu du mal, en fait, à chercher aussi des livres, mais aussi d'autres personnes qui s'intéressent à cette thématique. C'est plutôt le monde anglo-saxon qui, au contraire, s'intéresse à cela. Oui, le monde académique français, il a un peu du mal à accepter cela.
Peut-être qu'on va y arriver un jour.
Oui, pourquoi pas.
Merci beaucoup d'être venu dans les studios de Radio Grenouille.
Merci à vous pour cette invitation, merci beaucoup.
Et la prochaine conférence du cycle Quartier Populaire entre fiction et réalité, ça sera le 16 mai à 18h. Ça sera à propos des rédacteurs des revues de quartier à Marseille. Donc on vous invite à y aller. Merci beaucoup,
merci.
À bientôt.
Et à bientôt.
Belle journée à vous.
Não tem que juntar amor.